content d'être bien entouré. Parce que c'est le dernier jour où on travaille sur la série « Être bien entouré ». Voilà, je suis bien entouré. Surtout quand ça ne va pas bien, quand on passe par un moment difficile, c'est là où on réalise l'importance d'être bien entouré. Quand vous êtes dans une saison facile, favorable, votre communion avec Dieu suffit. Mais quand vous vivez un tunnel, quand vous êtes dans un moment sombre, soyez bien entouré. On ne choisit pas sa famille, on tombe dedans, mais on choisit ses amis. Et une partie de votre entourage, vous allez juste le subir. C'est ce qui s'est passé avec David, ce qu'on a vu la première fois. Il est tombé dans une famille dysfonctionnelle, c'est comme ça, rejeté par ses frères, et encore pire dans sa belle famille. Mais il est resté avec un tempérament, on a vu pas naïf, mais toujours positif. Alors que tout l'aurait poussé à être amer, il a choisi de bénir. Le deuxième passage qu'on avait vu, c'est David et ses amis, mais ses amis chrétiens, ses amis croyants, ses amis qui tirent vers le haut. Quand ça ne va pas bien, il faut un Jonathan, un cadeau de Dieu, Jonathan, qui vous aide et qui vous remonte. Vous en avez un ? Si vous n'avez pas d'amis chrétiens qui vous remontent, waouh, vous êtes un peu en danger. Et il y a un Nathaniao, Nathan, le prophète Nathan, qui, dans la deuxième partie de la vie de Saül, quand Jonathan n'était plus, Nathan a pris le relais et lui a dit non quand les autres lui disaient oui. Parce qu'il faut aussi un ami qui ose te dire les choses quand tu te plantes, qui te dit non, reviens à Dieu. Il faut accepter des fois d'être repris et ça va sauver la vie de David. Merci Nathan. Enfin, la semaine dernière, on s'était quitté sur le conjoint. Pour certains, comme David, vous savez bâtir des royaumes, vous savez réussir dans votre travail, mais vous êtes incapable de bâtir un mariage. Parce que, attention, choisir quelqu'un, ce n'est pas bâtir avec quelqu'un, c'est deux choses différentes. Et David a accumulé des conquêtes sans être jamais capable de construire un couple. Et ça, c'est triste parce que c'était le grand échec de la vie de David. Il a su amener des femmes jusqu'à l'autel qui dit « oui, je le veux », mais il n'a jamais été capable de bâtir avec une personne et devenir qu'un seul être, comme la Bible dit. Et c'était le malheur qu'il a porté toute sa vie. Je pense que quand je le verrai au ciel, et quand on le verra, il dit « j'ai un regret, ma vie sentimentale n'a pas été ce qu'elle aurait dû être ». Alors on va voir un dernier aspect, parce qu'on a vu les amis qui nous tirent vers le haut. Je voudrais vous parler que des fois, certains amis vous tirent vers le bas. Ce n'est pas super facile. Le thème, c'est « mes amis incroyants ». Alors, je vais tout de suite nuancer quelque chose. Je ne veux pas être dans le cliché, la caricature. Il y a des amis qui se disent chrétiens, qui se comportent très mal. Et d'un autre côté, il y a des amis qui se disent sans Dieu et qui se comportent très bien. Donc, il y a les bons et les mauvais, ce n'est pas comme s'il y avait d'un côté et de l'autre. Par contre, attention, là je me base sur un jugement de morale. C'est-à-dire certains inconvertis ont plus de morale, plus de fidélité, de sérieux, etc., de maîtrise d'eux-mêmes que des enfants de Dieu. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas la morale qui va faire d'un ami d'être un bon ami. Il faut que cette personne ait une relation avec Dieu suffisamment forte pour que lorsque tu ne vas pas bien, cette personne puisse t'apporter quelque chose de spirituel. Et là, une morale ne suffira pas. Même un ami qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui a des valeurs, ça ne suffira pas. Il faudra que tu aies des amis chrétiens qui te portent. Alors ma question, si on fermait les yeux et que je vous demandais combien vous avez d'amis, quels sont vos amis proches ? Celui qui me dit qu'il y en a 10, c'est un menteur, c'est des connaissances. Alors, les amis proches, il y en a 1, 2, 3, 4 et encore. Maintenant, parmi ces quelques-uns, combien sont chrétiens ? Je veux dire, combien sont vraiment nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit ? Et combien sont plutôt des incroyants ? Celui qui me dit « j'ai que des amis incroyants dans mon cercle proche », waouh, fais attention. Il y a un proverbe, je vous le lis. « Dis-moi qui est ta famille, explique-moi ton père et ta mère, et je te dirai quel est ton passé. » Ok ? Votre famille va marquer votre passé. C'est comme ça, vous êtes dedans, vous êtes soit opposé, soit vous avez adhéré aux valeurs, mais votre famille vous a modelé. Donc ça, c'est votre passé. Et le proverbe dit, dis-moi qui sont tes amis, présents, et je te dirai ton futur. Parce que tes amis, ton cercle aujourd'hui, les 3-4 personnes qui sont aujourd'hui les plus proches de toi, sont celles qui vont déterminer ton futur. Parce qu'on est toujours à la fois influencé par quelqu'un, et on influence quelqu'un d'autre. Donc on est obligatoirement en interaction avec nos amis proches et notre futur dépend de qui on choisit comme ami. D'où le danger, et c'est un moment de la vie de David, il va être très dangereux, il va s'entourer que d'incroyants. Et là, écoute ce message si c'est ton cas. La Bible dit, de Corinthiens 6, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres ? C'est dur, hein ? Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourtant, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir des amis. Si, tu as le droit d'avoir des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Là, Jésus dit, je ne vous ai pas demandé de vous retirer du monde. Vous êtes dans le monde. Vous avez le droit, au contraire. Il a dit, brillez dans le monde. N'allez pas dans un monastère. Brillez dans votre cercle d'amis au travail, à la machine à café, au self. Quand vous rentrez le soir, si vous faites une réunion après le soir, vous allez prendre un café, vous allez prendre un resto quelque part. Vous avez des amis incroyants, très bien. Mais attention, qui a le lead là-dedans ? Qui influence qui ? Parce que ne te mets pas sous un joug. Et regardez la notion de joug, ça ne vous parle peut-être pas, mais le joug c'est ça. Le joug, voilà ce qui se passait en Israël quand l'apôtre Paul écrit ce texte, il dit « Ne vous mettez pas là-dedans ». Si tu mets ta tête là-dedans, avec quelqu'un qui est un incroyant de l'autre côté, ça rend, alors c'est peut-être un petit peu dur ce que je veux dire, mais ça casse la direction de Dieu dans ta vie. Parce que tu te lies avec quelqu'un qui n'est pas du Seigneur, et cette personne-là, si elle t'éloigne de Dieu, t'es lié, t'es bloqué. Et c'est exactement ce qui va se passer de David envers Achish. Et il y a deux trésors que Dieu t'a donné, il t'a donné du temps. Vous avez tous un certain nombre d'années sur la terre. Vous êtes responsable de votre temps et vous êtes responsable de vos valeurs. Votre temps et votre valeur, c'est les deux cadeaux que Dieu vous a donnés. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Premier point, première partie, le désir d'être accepté, c'est la slide 12, même aux dépens de ta vie spirituelle. Est-ce que tu vas avoir besoin d'être accepté et chercher l'amitié des sans-Dieu, même aux dépens de ta vie spirituelle ? Alors, vous savez, il n'a pas choisi de se jeter dans les bras d'Achish pour rien, David. C'est parce qu'il était profondément déçu et blessé par ceux qui se disaient croyants. Grand A, les faux amis croyants. Parce que moi, franchement, j'ai traîné suffisamment dans les églises où de gens qui se disent des fois chrétiens, ils se comportent pire que pire. Et même les inconvertis, c'est des agneaux à côté. Quand je vois Saül, je me dis, un gars comme ça, comme ami, non merci. Oui, je sais, il y en a qui ont du vécu là. Non merci. Ayez pitié, tout de suite mettez-vous en prière, Seigneur, que je sois maintenant un bon ami pour la personne qui a beaucoup souffert. Faux amis croyants, des faux amis qui se disent, parce que l'étiquette, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, ça peut même être des responsables, n'importe qui. Et on peut être blessé dans une église, c'est clair. Des faux amis, parce que si c'est quelqu'un comme Saül, qui nous dit, je t'aime, Dieu a des projets pour ta vie, puis deux minutes après, il nous plante une lance. Non, moins de déclarations d'amour, plus de stabilité. Après, vous avez quelqu'un comme Dweg. Vous connaissez Dweg ? Dweg, c'est un gars tellement bien qu'il faisait une retraite spirituelle. Il allait dans la ville sacerdotale de Nob. Il allait voir le prêtre. Et il s'avère que quand il était en retraite spirituelle, il y a David qui fuit Saül et qui arrive au même endroit. Et Dweg, c'est un serviteur de Saül. C'est un ami proche du roi de Saül. Il voit David qui vient dans cette retraite spirituelle. Alors certainement, il a beaucoup lu la Bible, Dweg. Il a certainement fait des super prières bien longues. Il a fait peut-être un jeûne et prière pendant plusieurs jours. Et il voit David qui arrive. Le souverain sacrificateur donne à David quelques pains. Et Doueg va cafeter auprès de Saül. Il va voir Saül et il va dire, tu sais que le gars là, le prêtre de l'Éternel, il a donné des pains, il a soutenu David. Saül, fou de rage, arrive dans la ville de Nob et décide quelque chose. Il dit, je décide de tuer tous ceux qui ont aidé David. Et on arrive au verset du chapitre 22, verset 18, c'est la slide 16. Alors le roi ordonna à Doueg, vas-y, exécute ces prêtres. Le gars, il est venu pour faire une retraite spirituelle, ok ? Il est venu là parce qu'il considérait que les gens de Nob étaient des gens spirituels. Il y a un roi fou, possédé, qui lui donne un ordre, tue-les ! Et Doueg, l'édomite, s'avança et ce fut lui qui tua les prêtres. Il mit à mort, en ce jour, 85 hommes portant le vêtement sacerdotal en lin. Et Saül fit massacrer par l'épée tous les autres habitants de Nob. Non mais, attends, tu veux me dire que tu allais faire une retraite spirituelle et qu'à la fin de la retraite spirituelle, tu massacres tout le monde ? savez que les chrétiens qui soi-disant font les belles prières et qui sont les plus consacrés, des fois vont te tuer le plus avec leur langue, avec des actions. Alors quand David y voit ça, il dit franchement, si c'est ça les amis croyants, ben, je préfère les inconvertir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont été tentées de faire pareil. De chercher l'amitié que vous n'avez pas trouvée ou qui vous a été tellement déçue, tellement blessée. J'ai mis cette conclusion, certaines blessures t'ont été infligées par des amis croyants. Attention à ne pas t'infliger des blessures toi-même en cherchant l'amitié auprès d'un croyant. Parce qu'on va basculer d'un extrême à l'autre. Après avoir trop attendu de la part des croyants, tu vas dire, ok, eux ils sont pas là autant, bah, je m'en fous. Moi je vais me trouver de l'amitié, il y a des gens très bien dans le monde et je vais trouver des personnes qui, eux, vont être sérieuses, vont me protéger. Et David va aller chercher l'amitié auprès du roi de Gath, qui est un roi des Philistins, le roi qui avait hébergé Goliath. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Eh bien en fait, c'est le B, il va chercher des amis incroyants, même aux dépens de ses valeurs. Et je vais vous montrer pourquoi il va y perdre ses valeurs. 1 Samuel 21, 11. David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Achish, le roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Achish dirent au roi, « Mais n'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant? Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Hé, hey, t'es connu! Tu sais que les inconvertis, quand tu traînes avec eux, ils réalisent quelque chose. T'es pas des leurs. Il y a quelque chose qui sonne faux. Et quand ils te voient, c'est très étonnant parce que ils disent une chose au roi, ils lui disent au roi de Gath, au roi des ennemis, hein. Il dit, n'est-ce pas David le roi du pays? Le roi de quel pays? Le pays d'Israël? Est-ce que c'est vrai que David est le roi du pays d'Israël? Il n'y a pas de mauvaise réponse possible pour le coup. Ce n'est pas un piège de pasteur là. Il y a, toutes les réponses sont bonnes. Est-ce que David est le roi du pays? Non, il ne l'est pas à l'heure actuelle. Le roi du pays, c'est Saül. Mais est-ce que les émissaires sont mal informés? Non. Les gens de ce monde, des fois, sont plus sages que les chrétiens. Et ils connaissent et ils reconnaissent ta destinée. Et quand tu traînes avec tes collègues à la machine à café, que tu es avec eux, etc., ils voient que tu n'es pas comme eux. Et ils reconnaissent en toi quelqu'un d'exceptionnel. Et ils se disent, mais cette personne-là, elle a quelque chose que je n'ai pas. Il y a des projets et ils vont régner. Vous savez qu'ils ont raison s'ils disent que vous allez régner un jour. Non, je sais que vous êtes pauvre actuellement, mais ça ne durera pas toujours. Et je ne suis pas en train de vous parler de régner sur la terre. Je suis en train de vous dire que Dieu a dit, je vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous serez aussi. Je vous confierai les trônes et vous jugerez les... Ça, hey, c'est pour ça qu'on a peu de temps, on a peu de temps sur la terre, on a peu de valeurs à défendre, mais tenons-les bien. Parce que les inconvertis, des fois, sont plus sages. Ils reconnaissent en toi, ils voient tes forces. Mais toi, parce que tu as 17 ans, tu as 18 ans et que tu veux tellement jouer à l'amitié, t'oublies. Et je termine sur ce passage, sur ce slide en disant, regardez, n'est-ce pas, ils disent, n'est-ce pas ce David pour qui on disait il a tué ses 10 000. Vous connaissez les chants qui disent compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien leur nombre est grand, sauf qu'au bout d'un moment, tu les vois plus. Et tu finis par ne plus voir combien Dieu a fait des merveilles pour toi. Et c'est très étonnant parce que ce sont des inconvertis qui vont dire « Mais tu sais quand tu avais passé le permis là et que tu avais normalement t'aurais dû échouer et qu'au dernier moment, ça s'est retourné et que Dieu t'a donné la faveur, c'est ton bac. » Et les inconvertis vont te rappeler des miracles que tu as oubliés, que Dieu a fait pour toi. Et ils vont lui dire « Mais attends, mais David, c'est quelqu'un qui est béni par Dieu !» Alors que lui, il est en train de chercher l'amitié auprès des inconvertis, je ne sais pas ce qu'il cherche, à part l'acceptation. Il cherche juste un endroit où se faire accepter. Alors regardez ce qui va se passer. David prit ses paroles très au sérieux. Il eut une grande peur d'Achish, le roi de Gath. Alors il fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les bâtons des portes. Et c'est un peu. Ouais. Et il laissait la bave couler sur sa barbe. On est en train de parler de quelqu'un qui, quelques minutes avant, était dans la présence de Dieu, il était dans le peuple de Dieu, il écrivait des psaumes. Et là, il est en train de se salir. Jusqu'où es-tu prêt à te salir pour te faire accepter? Combien de fois tu vas devoir rigoler à des blagues qui sont graveleuses? Qu'est-ce que tu es prêt à regarder, à participer, à cacher dans ton entreprise alors que tu ne devrais pas le faire, à te taire sur une faute parce que tu veux te faire accepter? à faire semblant de ne pas voir parce que tu veux te faire accepter. À prendre des positions morales dans lesquelles tu ne peux pas t'engager, mais tu le fais parce que tu as tellement peur de comment ta collègue va réagir que tu dis oui, 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 oui. Mais tu sais pas quoi ? Tu es en train de te baver dessus, là. Tu es en train de te baver dessus. Et si je veux même être un peu dur, tu fais pitié, là. Là, David, tu fais pitié. Tu es en train de te baver dessus dans une ville étrangère avec des étrangers parce que tu n'as plus que des amis incroyants autour de toi et tu veux tellement te laisser accepter que tu passes pour un fou. Non, mais si, c'est vrai. Ouais, Dieu te dit stop là. Regarde-toi un peu dans le miroir. Parce que quand tu étais à McDo et que tu avais cette conversation là, quand tu as caché mais toutes tes valeurs et que tu étais oui, finalement, je sais pas trop. Sur tous les thèmes de société où quand on te pose, mais toi, t'es « Ah non, non, moi, je suis gay-friendly, moi, je suis dans l'avortement, non, attends, c'est un gars, c'est un gain, c'est le droit des femmes, etc. » Il y a un moment où tu dis « Ouais, mais t'as 240 000 bébés. Hein. »« Ouais, mais attends, stop. Qu'est-ce que Dieu il pense de ça ?» Puis à un moment, il va partir parce qu'il sent que c'est marrant. Hein, la première fois que tu vas dans le péché, tu sens qu'il y a un problème, tu pars toi-même. Première fois que tu vas en boîte, des fois tu te sens pas à l'aise, hop, tu sors tout de suite. Tu dis, il y a un truc qui va pas. Et David se rend compte qu'il va pas, il part de Gath. Et quand il part de Gath, il va écrire un psaume. Vous savez qu'il y a des psaumes qu'on écrit alors qu'on va très mal. En fait, je vais même vous dire quelque chose. Les plus grandes révélations de Dieu que vous aurez des fois, c'est lorsque vous aurez touché le fond. Quand vous aurez honte de qui vous avez été. Et David, il va écrire un psaume 34. Il est dit, c'est le psaume que David a écrit lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec. Abimélec, c'est le nom du roi de Gath. C'est le titre du roi de Gath. Achish, c'est son nom, mais son titre, c'est Abimélec, qui le chassa de sorte que David puisse s'en aller. Et David va écrire un psaume, le psaume 34. Vous connaissez le psaume 34 ? C'est le psaume, je pense, qui a le plus de chants aujourd'hui dans nos assemblées. Vous prenez du verset 1 à la fin du chapitre, tous les versets ont été utilisés et mis dans un chant. Et moi, je regarde ça, c'est une nostalgie. À chaque fois que je lis, j'ai presque une mélodie d'un cantique qui démarre à chaque fois. Mais vous avez notamment, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un chant qui disait « Venez mes fils, écoutez-moi si vous aimez la vie. Et éloignez vos lèvres de la tromperie. » Et David va marquer qu'il n'y ait aucun mensonge qui sorte de ta bouche. Attends, mais je rêve ou quoi ? David, tu viens de mentir éhontément au roi Achish de Gath, et là tu viens nous faire la morale. Non, non, il n'est pas en train de faire la morale. Il dit, venez mes fils, écoutez-moi. C'est un papa qui a entre 25 et 30 ans et qui va voir son petit-fils qui s'appelle Amon et puis un autre certainement, les enfants d'Aïnoam et de Abigail, et il les prend et il dit, mes chéris, comme moi je pourrais parler à Ethan ou Shaina, et il leur dit, écoutez, je vais vous dire un truc. Papa, il s'est bavé dessus parce qu'il a menti et parce qu'il a caché ses valeurs. Alors écoute, mon fils, si tu veux avoir la vraie vie, fais pas ça. Et c'est pour ça qu'il va dire que celui qui veut avoir une vie longue et épanouie, il s'éloigne du mensonge. Amen. Et il va écrire une autre phrase qui me bouleverse. Il va dire, lorsque les hommes justes lancent leur cri vers lui, l'Éternel les entend et il les arrache à toutes les détresses. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Verset 20, il dit, le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre. Quand ? Toujours, gardez-le en mémoire parce que ça va poser problème plus tard. Il veille sur ses os et aucun d'eux n'est brisé. Il est tellement rempli du Saint-Esprit quand il écrit ce psaume qu'il est en train de prophétiser sur ce qui va se passer pour Jésus dans 800 ans. Quand il a dit aucun de ses os sera brisé. Il est rempli du Saint-Esprit. Après t'être bavé dessus, quand tu reviens vers Dieu et que tu rentres dans l'église et que tu loues Dieu, le Seigneur te donne une inspiration nouvelle. J'arrive au deuxième point. On a deux points aujourd'hui. Le point premier, c'était sur les valeurs que tu vas gâcher par besoin d'acceptation. Et là, je voudrais parler de ce que tu vas gâcher par besoin de liberté. Parce qu'il a dit, l'Éternel en délivre toujours, mais au bout de quelques semaines, alors qu'il rentre en Juda, Saül lui remet la pression. Et des fois, la nuit, qu'est-ce qui se passe lorsque tu as toujours de la pression ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu réfléchis au lieu de dormir. Et tu réfléchis et tu laisses ton cerveau tourner à tel point que tu réfléchis de travers. Et ça, c'est le verset suivant, Attention, parce qu'il va s'habituer au double jeu. 1 Samuel 27:1. David réfléchit et se dit, un jour ou l'autre, Saül finira par me tuer. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Faites gaffe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Quand il écrit ça, il réfléchit humainement. Est-ce que Dieu t'a dit, David, que tu allais régner? Est-ce que les cheveux de ta tête sont comptés? Est-ce qu'il n'y a aucun qui tombe sans que l'Éternel soit d'accord? Donc tu n'as pas à dire ça, ce que tu es en train de dire. C'est très humain, c'est très naturel parce que tu es en train de surchauffer et tu te laisses bouffer par tes peurs au tel point que tu dis « Mais si je ne pars pas avec les inconvertis, ces chrétiens, ils vont me pourrir la vie. Je pars, j'ai envie de souffler, j'en ai marre de cette église, ça tourne en rond, je pars. » Et en fait, c'est parce que tu réfléchis de travers. Tu as oublié que les projets de l'Éternel sont des projets qui s'accompliront quoi qu'il en soit. Et ça, David, il est en train d'oublier complètement les projets de Dieu et il dit ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir pour de bon et me réfugier au pays des Philistins. Mauvaise idée. Mauvaise idée. En fait, il y a un piège aussi, c'est parce que la première fois qu'il y allait, il s'en est sorti. Alors vous voyez, il a l'impression qu'il maîtrise. La première fois que tu vas dans le péché et que tu arrives à dire « Oh non, stop, je sens que ça ne va pas. » Tu retournes en arrière et tu dis à tes copines « Non, je suis désolé, ça je ne peux pas faire. » Mais quand tu repars dans le péché, c'est comme si tu deviens blasé, tu t'habitues au péché. Et là, il va venir pour de bon. C'est-à-dire que alors qu'avant, il s'était rendu compte que ça ne marchait pas avec Achish, mais là, il va vraiment chercher l'amitié pour de bon. Et il est dit qu'il va s'installer là-bas. Wow! Il s'établir là. Et le numéro 30, l'image 30, David dit à Achish, si tu acceptes de me faire une faveur, autorise-moi de m'installer dans un village quelconque de la campagne. Il n'y a pas de raison pour que ton serviteur réside dans la ville royale avec toi. Alors Achish lui attribua ce même jour Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag appartenait au roi de Juda jusqu'à ce jour. Et David demeura 1 an et 4 mois en Philistie. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à passer tout ton temps avec des personnes qui sont loin de Dieu? Tu te plains pour 2 petites heures passées dans la présence de Dieu le dimanche. Tu passes 24 fois 6 jours plus 22 heures avec des inconvertis que tu contactes de partout et qui t'influencent terriblement. Fais gaffe à ça parce que ce n'est pas équilibré. Et David, là, il est en train de faire un pacte avec le diable, mais vous voyez, ce n'est pas comme s'il a dit « Ouais, je vais pécher, je vais aller de gaieté cœur, ouais, super, je vais avec les ennemis de l'Éternel. » Non, c'est comme s'il glisse, quoi. Vous savez, l'art du dressage, quand tu veux dresser un animal, il ne faut pas qu'il s'en rende compte. Et je peux te dire que Satan est un bon dresseur. Quand il va t'amener chez lui, il va t'amener d'abord avec des... Vous savez comment on fait pour les animaux, hein? Les phoques, on leur balance deux petites sardines. Hein? Puis après, le phoque, il va oublier qu'il est complètement dressé. Le dauphin et tout ça. Mais c'est le dresseur qui dirige, en fait. Et l'animal, il croit qu'il le fait volontairement. Au bout d'un moment, Satan va t'amener à faire des choses qui sont contre ta nature. Et sauf que tu t'en rends même plus compte. Si bien que regardez ce qui se passe. Pendant ce temps-là, bah oui, parce que David, c'est un berger. Qu'est-ce qu'il est habitué à faire? Il est habitué à faire paître des troupeaux, c'est un nomade. Le roi Achish lui dit, je te donne une ville. Une ville pour un nomade, ça ne peut pas marcher. Alors à court terme, il arrive avec ses brebis et il va les faire paître dans les entourages de Tsiklag. Vous savez ce qui se passe au bout de 2 semaines? Il n'y a plus rien à bouffer. Les troupeaux, ils ont tout mangé. Donc au bout d'un moment, tu dis, mais attends, mais il faut que je mange là. Et comme il n'entourait que d'un converti, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller faire des pillages dans le sud, direction le Sinaï. Et il va aller voir les Amalécites, etc. C'est ce que vous lisez jusqu'au verset 8 et 9. Et David va ravager la contrée chez les Amalécites. Mais quand il revient, et là, ça commence à me poser des gros problèmes sur ses valeurs. Bon, déjà, à force de faire des massacres, là, tu vas te durcir le cœur. À force de traîner avec des inconvertis, tu vas intégrer de la violence dans ton cœur. Et ça va, au bout d'un moment, ça ne te fait plus rien. Tu vas faire des choses que tu n'étais pas d'accord de faire, mais à force de les faire, tu les fais. C'est pour manger. Les impôts, ouais, c'est pas tout à fait le bon chiffre. Non, mais c'est pas grave, c'est pour manger. Ça, dans mon entreprise, je ne dois pas le faire. C'est pas grave, c'est pour manger. Et tu vas te donner plein d'excuses. Mais le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Et ça va aller plus loin parce que, vous savez, quand tu commences à tourner dans le péché, le diable, il joue avec toi. Hein. C'est comme un pendule. Quand Achish lui demandait, « Où avez-vous fait cette razzia cette fois-ci ?» David répondait, « Dans le sud de Juda. » T'es en train de mentir, là. Pourquoi David ment? Parce que s'il dit la vérité, il est mal. Donc en fait, pour cacher ses péchés, il efface et il ment. Et du coup, ça crée chez lui, après de la dureté, ça crée de la duplicité. Il apprend à mentir, il devient menteur professionnel. Il apprend à jouer le double jeu. Et ça va plus loin parce que, regardez ce qu'il dit, il ne laissait pas de survivants. Il est obligé d'être de plus en plus violent. Et il massacre les gens, il ne laisse aucun survivant pour ne pas les avoir à les amener à Gath afin qu'ils ne rapportent pas les agissements de David. C'est-à-dire qu'il y a un moment où à force de traîner avec des pécheurs et à te comporter comme un pécheur, tu as juste une crainte, c'est que tu sois pris. Tu es dans le péché, mais tu te dis, pourvu qu'il n'y ait pas un chrétien qui m'y voit, quoi. Donc tu te débrouilles, tu vas sur Internet, et après tes recherches, tu dis, effacer. J'enlève tout l'historique, quoi, pour que ça se voit pas. Et tu te dis, je veux pas de témoins. Quitte, tu vas dans un endroit vraiment où il y a le péché, parce que tu dis, franchement, normalement, dans cette boîte de nuit, elle est tellement craignose qu'il ne devrait pas y avoir de chrétien. Il n'y a personne que je pourrais ramener. Et... Alors ça marche un temps, ça. Ça marche un temps, à force de traîner avec les inconvertis, tu enchaînes les mensonges. Le dimanche, c'est Alléluia, tu es le roi. Puis le lundi soir... Jusque à quand comptes-tu vivre en jouant double jeu? Dieu dit, nul ne peut servir en même temps deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il serait dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et le monde. Bah. Allez, on termine. Grand B du 2, brûlez ton temps. C'est le diable se dit, il faut que je l'occupe. Une fois qu'il est en train de descendre dans le péché, le diable n'est pas bête. Il se dit, tant qu'il ne revient pas dans le pays de Dieu, je vais le garder. Tant que tu ne reviens pas à l'église, tant que tu reprends pas ce que j'étais censé faire pour Dieu, le diable il va dire, ok, je vais t'occuper. Et regardez ce qu'Achish va lui proposer. C'est le 28 verset 1, c'est la slide 40. À cette époque, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, tu dois savoir que c'est ce que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. Ah, il y a un petit problème là. En fait, Achish, à force d'être trompé, il pense que David attaquait les enfants de Dieu. Donc David a tellement menti à Achish que Achish s'est dit, ben maintenant t'es des nôtres. Mais du coup, ça veut dire que tu vas aller taper sur les chrétiens. Alors regardez, David répond à côté encore. Vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. David répondit à Achish, eh bien... C'est une réponse de chrétien qui ne va pas bien, ça. Tu verras ce que ton serviteur fera. Achish dit à David, eh bien, je t'établirai pour toujours comme mon garde du corps.
Wow. Wow. Wow.
On est en train de parler à celui qui s'est levé quand tous les hommes d'Israël avaient peur des Philistins. Un jeune gars de 17 ans qui s'appelait David. David de Bethléem qui s'était levé et qui a dit, y a-t-il personne pour attaquer ce géant Goliath? Ben moi, je me lèverai. Vous rappelez de ça? Et bien maintenant, on a un David qui est sur le point de partir en guerre pour aller tuer des papas qui servent Dieu, pour aller tuer les gars qui étaient avec lui dans les tranchées. Parce qu'il a tellement traîné avec les ennemis de Dieu qu'il ne se rend même plus compte qu'il a piqué leur mentalité. Et il est là et... Ah, c'est toujours pareil. Là, je voudrais parler aux hommes. Je ne peux pas parler aux femmes là-dessus, je peux parler aux hommes parce que c'est un truc typiquement de gars, ça. Quand il lui dit... Achish lui propose, il dit, tu vas être mon garde du corps. Je te fais une promotion, je t'augmente de 300 euros, tu donnes tes week-ends et tu deviens manager. Bon, c'est vrai que tu n'as plus le dimanche à l'église. Mais par contre, tu as des responsabilités, tu montes en grade. Et vous savez que c'est quelque chose de terrible parce que Saül, il y a quelque temps, c'était de Dieu, avait proposé ce job à David. Vous vous rappelez de ça? La première fois que David a porté des armes, il a porté les armes de Saül. Et c'était hyper valorisant. Il disait, « Waouh, mais qu'est-ce que je suis pour porter tes armes dans la maison de Dieu ?» Il était extrêmement honoré. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que son que son église lui avait proposé au début, mais après ça a tellement dysfonctionné. Son pasteur, entre guillemets, est devenu fou, même possédé. Et il a été tellement écœuré des chrétiens. Ah, hey, la vérité, c'est qu'il y a des hommes dans cette salle et dans toutes les salles en France où on cherche Dieu, qui sont sur leur chaise et qui disent franchement, en fait, ici, je ne fais que chauffer les chaises. Alors que dans le monde, on reconnaît vos talents. Et dans certaines églises, le pasteur et sa clique, ils ceinturent tous les jobs, tous les postes de responsabilité. Et tes talents, en fait, tu n'arrives pas à les exprimer. Dans plein d'églises, c'est verrouillé. Il y a des églises qui étaient 50 en 1978 et qui sont encore 50 aujourd'hui. Et en fait, tout a été bloqué, tout est paralysé, tu n'as pas de place. Et quand tu es un homme, tu arrives, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, mais attends, on va attendre, on va essayer de mieux te connaître, attendre que tu sois sanctifié. Mon deuil, moi j'ai entendu 10 fois ça, waouh! Et comment tu vas juger que je suis sanctifié, moi? Et il y a beaucoup d'hommes qui sont extrêmement frustrés et le diable voit ça. Il dit, oh, 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 les enfants de Dieu, tu n'utilises pas, moi j'ai un job pour toi. Et ton patron va dire, dans ton église, t'es quoi? Tu fais rien, tu chauffes les chaises. Ici, tu seras manager. Tu seras manager. Et si on s'arrêtait un instant pour compter ceux qui ne sont pas là aujourd'hui alors qu'ils auraient dû être là, parmi tes amis, dans ta famille même, ceux que le diable a eu avec des promotions bidons. Avec des promotions bidons. Pour 200 euros, tu as quitté l'église. David voulait avoir une ville à lui. Il avait besoin de liberté. Dans Judas, c'est un fuyard. Il en avait marre de galérer dans son église. Alors il y a un jour où il a dit, franchement, mon appart est trop petit. Il n'est pas à moi, je suis en location à Créteil. Au fin fond du 77, dans la Seine-et-Marne, on me propose une maison pour le même prix à moi. Bon, alors c'est vrai que dans le 77, au fond, fin fond là-bas, il n'y a pas d'église. Mais au moins, ça sera ma maison. Ouais, mais tu vas être entouré de qui? Il y a qui comme chrétien là-bas? Non, mais on sera juste moi et ma famille. Et que des inconvertis autour. Ouais. Plus d'église. Non. Là, normalement, il devrait y avoir bip, 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 bip. Dangereux. Parce que ta maison, tu ne l'amèneras pas au ciel. Par contre, tes enfants, ça serait bien qu'ils y aillent. Et on va voir que la suite de l'histoire me donne raison par rapport à exactement ce qui va se passer. Moi, je dis, qu'est-ce que cherches-tu à prouver auprès des incroyants? Est-ce que c'est une revanche sur ces croyants qui t'ont blessé? Des fois, on quitte l'église pour aller obtenir des trucs dans le monde parce qu'on a des frustrations, qu'on n'a pas, des rêves, des projets qu'on n'a pas pu réaliser dans notre église. Alors, on va les faire dans le monde. Ce qu'on n'a pas été capable de donner à la bienfaisance le samedi matin, on va le donner pour 200 euros en heure supplémentaire un samedi matin dans le monde. Et là, je me dis, mais on marche sur la tête, quoi. Nos valeurs, ce n'est pas ça. Nos valeurs ne sont pas ça. Et moi-même, je ne vais pas vous juger parce que moi, j'avais le même problème. Quand j'étais dans mon lycée et tout ça, et on me proposait des promotions. Moi, ils m'ont dit, oui, on peut faire de toi un prof de classe prépa. C'est top quand tu es un prof. La classe prépa, c'est le mieux. Mais si je fais ça, je n'étais pas pasteur, vous voyez, de l'église. Alors, un point de vue réussite professionnelle, il y a des promotions. Et le diable sait, il reconnaît souvent plus ta valeur que les chrétiens. Ce qui peut te tenter d'aller chez lui. Et moi je me suis dit, non, hey, je ne suis pas appelé pour être un prof de classe prépa. Je suis appelé à servir Dieu. Tu es appelé à quoi? Je vais vous quitter là-dessus, dans quelques instants. Je me dis, mais là, il va s'arrêter où? Réveillez-le là. Il faut que quelqu'un lui donne deux petites claques là. Il faut qu'il se réveille le David. Je dis pas ça pour ton voisin parce que tu veux lui faire mal. Mais qu'il se réveille. Réveillez-vous quand même. Regardez la fin. On arrive à un des derniers textes. C'est l'image d'après. Regardez ce qui va se passer. David, il est sur le point de partir en guerre pour aller tuer les enfants d'Israël. Et il est complètement aveuglé par son amitié avec Achish. Parce qu'il dit, les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière-garde avec Achish. Et les princes des Philistins dirent, mais que font ici ces Hébreux? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous savez, quand tu vas traîner avec les inconvertis, tu as toujours un inconverti, plus inconverti que l'autre, qui va dire « Elle n'est pas vraiment des nôtres, elle. Elle boit, mais pas autant. » Il y a un moment où ils vont se dire « Attends, cette fille-là, elle va nous casser l'ambiance si on l'amène. Parce qu'elle ne sait pas s'éclater comme nous, on sait. » Je ne sais pas si j'ai touché juste, mais c'était pour quelqu'un quand même. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Achish et lui dirent « Renvoie cet homme ». Vous savez ce que je trouve merveilleux là-dedans? C'est que des fois, Dieu est obligé de te mettre un coup de pied aux fesses pour que tu sortes. Et c'est incroyable parce que Dieu va utiliser les incroyants, les pires de pires, pour donner à David une pensée de Dieu qu'il n'est plus capable d'entendre parce qu'il est aveuglé par son amitié avec quelqu'un. Il ne devrait pas être ami. Et il n'a tellement pas d'amis chrétiens. Il n'y a personne dans son entourage qui est capable de lui dire « Arrête les frais !» Tu n'as rien à faire avec traîner le soir avec ces personnes-là. Tes amis sur Facebook, tu ne fais pas le ménage, Dieu va devoir faire le ménage pour toi. Et c'est dur à faire parce que tu ne te rends pas compte, tu te dis « Non, mais j'ai une dette morale à qui ? C'est comme celui qui m'a accueilli quand tous les chrétiens vont tourner le dos. Pourtant qu'elle était là, ma copine et tout. » Oui, mais attends, ta copine, elle est en train de t'éloigner de Dieu quand même là-haut. Alors oui, elle a peut-être un cœur, elle a de la morale, elle te fait des super bisous, elle remonte le moral, mais ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Alors j'ai une deuxième excuse que vous allez me sortir. Oui, mais pasteur, je l'influence pour le bien. Oh non, c'est vrai, ça on me le sort aussi. Eh bien c'est vrai, non mais c'est vrai, tu mens pas parce que c'est marqué. Achish appela David et lui dit, l'Éternel est vivant. Amen. Pour la première fois qu'Achish dit un truc vraiment intéressant. Tu es un homme droit et j'aime te voir aller et venir avec moi dans le camp. Je n'ai trouvé aucun mal depuis ton arrivée jusqu'à chez moi. C'est un menteur parce qu'en fait il ne sait pas que David faisait des trucs en douce. Mais bon bref, repars donc et va-t'en en paix pour que ne rien faire qui déplaise au prince des Philistins. C'est terrible ça. Alors je vous dis, toujours par rapport à moi et mon lycée, je veux me mettre en danger, tant pis. Mais vous voyez, dans mon lycée, la première fois que je suis arrivé, j'ai deux potes, un prof de philo. Parfois, j'ai parlé avec eux, j'ai tâté le terrain. Qu'est-ce qu'ils pensent des évangéliques ? Ils me disent, évangéliques ? Wow, c'est une secte, ce truc. S'il y a du boulot, là. Wow, 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 on part de loin. Là, je suis chez les princes des Philistins. Et du coup, j'ai commencé à lui parler. Je dis, Jean-Michel, tu sais, les évangéliques, ben, s'il y a quelques malades, oui, ça passe des fois sur M6, mais... À la base, c'est étudier la Bible, c'est le libre arbitre, c'est réfléchir, c'est laisser le Saint-Esprit toucher, etc. Vous savez pas, à la fin, Jean-Michel, il était capable de dire l'Éternel est vivant à propos de mon Dieu. Sous-entendu, ouais, t'as une bonne religion. Ouais, finalement, c'est pas une secte ton truc. Peut-être même qu'un jour je passerai. Ah si. Est-ce que j'ai influencé Jean-Michel ? Oui ! Est-ce que j'ai fait de Jean-Michel un chrétien ? Non. Est-ce que tu as influencé ta copine et tes copains qui t'amènent loin de Dieu ? Oui. Tu vas faire d'eux des moins mauvais pécheurs. Mais c'est toujours des pécheurs. Parce que le soir, après avoir fait ça, il va dans son temple de Dagon pour faire de la prostitution sacrée, le gars. Alors il est capable de dire, oui, l'Éternel est vivant. Ouais, mais il y a aussi Dagon qui est vivant, il y a, etc. Alors toi, tu es très content parce que tu dis, regarde quand même, il est un peu mieux, hein. Je l'ai influencé. Alors qui influence plus qui ? Parce que peut-être lui, il n'est pas devenu chrétien, mais par contre toi, t'es en train de plus l'être. Et puis, on a toujours l'impression de maîtriser. Oh, je maîtrise. Tu maîtrises rien du tout. Tous les grands barrages qui se sont explosés, il y a toujours eu un ingénieur qui a dit, vous inquiétez pas, je maîtrise. Tous les avions qui sont crachés sur la Terre, il y a un pilote qui a dit, vous inquiétez pas, tant que je suis là, il est mort, le gars. Et c'est pareil pour les chrétiens. La suffisance, c'est quelque chose de terrible. Et il ne voit pas, et ça va très mal, et ça va très très mal. Et David, il est complètement fou. La première fois qu'il l'a fait, et je termine, la première fois que David a mimé la folie, vous êtes d'accord ? Il s'est bavé dessus et tout. Il n'était pas fou, il le mimait. Et ben, quand je lis le verset 8 du chapitre 29, je me demande s'il n'est pas devenu pour de bon. Parce que David dit à Achish, mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé chez moi ton serviteur depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon Seigneur le roi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir le droit d'aller taper du chrétien ? Est-ce que je pourrais parler à David, s'il vous plaît ? Je veux dire le vrai, quoi. Parce que ce gars-là, il traite Achish de roi. Je croyais qu'il disait à Goliath, puisque tu as déshonoré le roi du ciel, et là, il a un nouveau roi sur la terre, le gars. Et il est tellement fidèle, il est tellement dans son truc, mais j'ai une dette envers... Mais arrête, réveille-toi, oh ! Et Dieu va devoir faire quelque chose là. Et à qui je lui répondis, David, je le sais bien, tu me plais autant qu'un ange de Dieu, mais les princes philistins refusent que tu montes avec eux au combat. Mais ouf, qu'on a chaud! Parce que si David s'engage là-dedans, mais pour le coup, lui qui cherchait l'acceptation, il n'aura plus l'acceptation de Dieu. Lui qui cherchait la liberté, il va perdre toute sa liberté de Dieu. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi Dieu l'a permis qu'il s'arrête là? Moi, je vais vous dire. Moi, j'ai entendu cette histoire qui m'a bouleversé. Alors peut-être, si vous êtes à Créteil depuis longtemps, je l'ai déjà dite, mais pour moi, c'est la plus révélatrice de ce que je pense de Dieu. Il y a une grande mare de boue qui s'appelle le péché. Mais une mare de boue, mais tellement grande et tellement profonde, ça fait des bulles dedans. Et il y a dedans un énorme cochon, un gros gras, gros cochon. Et quand vous voyez le cochon dedans, il est là. Voilà, c'est ça. C'est bon, vous voyez. Il y a deux yeux qui sortent et de temps en temps, quand il sort, il est content le cochon. Parce que c'est son monde. Qu'un pêcheur pêche, c'est tout à fait normal. C'est là-dedans qu'il s'éclate. Et puis vous voyez, il y a un petit agneau qui arrive, qui passe par là. Une vie pas très intéressante, le petit agneau. Petite laine, blanc plus blanc que neige. Il arrive, il voit le cochon qui fait...
Hey baby,
et le petit agneau. Je dis, mais ça a l'air d'être cool ton truc là. Ça te rend heureux. Et le petit agneau, il met sa patte. Il regarde, même pas mal. Le péché, au début, ça fait pas mal. Puis il monte un peu plus. Puis il se dit, mais j'arrive pas à avoir la satisfaction qu'a l'autre gros là. Donc il va falloir que je mette plus dedans. Alors le petit agneau, il quand ça a beaucoup de boue, ça fait toujours pas beaucoup d'effet, ça en fait un petit peu. Bon, il se sent un peu libre, quoi, un peu fun. Puis ça monte. Puis ça monte. Puis à la fin, on voit deux grosses taches dans la boue. Et vous ne pouvez plus discerner qui est qui. Hein. Ils sont tous les deux remplis de saleté. Et moi, en tant que pasteur, et pendant des années, j'ai dit, vous savez là, pour moi, il n'y a pas de différence entre un chrétien qui pêche et un pêcheur. Tous des pêcheurs. Et je ne suis pas d'accord. Je crois que Dieu fait la différence entre un chrétien qui pêche et un pêcheur. Et je vais vous dire pourquoi. C'est exactement ce que Dieu a fait par rapport à David. Parce que Dieu s'est approché de David comme il s'approche de la mare de boue. Et quand Dieu s'approche de cette mare de boue et qu'il voit le cochon, il regarde le cochon et il regarde le tas du cœur du cochon. Et le cochon, il a... Et quand il écoute le petit... Ah, vous ne pouvez pas le voir, vous, si vous regardez de loin. C'est des choses qu'on n'entend que quand on est tout près de la mare. Et Dieu s'approche tout près. Et il écoute. Et il entend le petit agneau. Et il entend. C'est pas le bruit de quelqu'un qui est en train de trouver du plaisir là-dedans. Parce qu'au bout de quelque temps, le petit agneau est en train de se noyer dans sa mare de péché. Et il pleure. Parce qu'à l'intérieur, le Saint-Esprit est en train de le convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est pour ça que quand tu seras en boîte de nuit, en train de faire exactement tout pareil que ta copine, elle y trouvera du plaisir, alors que toi, tu seras en train de te salir et tu seras en train de te sentir mal, plus mal que mal. Et c'est le peu de Saint-Esprit en toi qui arrive par une alarme géniale à te faire pleurer dans les endroits les plus sales de ta vie. Et je trouve que mon Seigneur est merveilleux. Parce que pour le coup, là, dans cette histoire de mare, c'est Dieu qui a permis que le cochon, avec une espèce de ruade de je sais pas quoi, ait dégagé le petit agneau. Et le petit agneau s'est retrouvé dehors de la mare, exclu de la mare du péché. Alors le problème, c'est que quand tu sors d'une mare comme ça, bah, t'es plus très blanc. Hein. Alors pour revenir à l'église, c'est un peu voyant. Et il se peut que t'aies deux ou trois sœurs, ou deux ou trois frères bien intentionnés qui disent... Où t'as traîné, toi, depuis trois dimanches? Te perds pas dans les explications. Dis, je suis là, parce que je crois que Jésus me lave. Et David va retourner chez lui. Et vous savez ce qui va se passer quand il va retourner chez lui, parce qu'il va se faire virer, là? Bon, ça se joue très vite. En fait, on croit qu'on maîtrise, mais en quelques instants, des pillards à Malécie du désert, les fameux gars qui l'avaient été volés dans le désert du Sinaï, sont venus et lui ont repris sa femme, ses enfants, tous ses biens. Il n'a plus rien. Et c'est un homme cassé qui rentre chez lui à Tsiklaï et qui voit la ville brûlée, incendiée. Et David pleure jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes, nous dit la Bible. Alors pour qu'un homme pleure, pour qu'il n'ait plus de larmes, c'est que ça a dû être quelque chose. Il était brisé au dernier degré. Et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sali mes valeurs. J'ai perdu mon temps. J'ai brûlé ma vie. Dieu, Dieu, Dieu. Et il va avoir une force incroyable. C'est le dernier texte. Il est dit que David, et c'est la fin. David, en verset 6, c'est la slide 52, était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant à chacun, à leur fils, à leur fille. Il parlait de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Ouf ! Il était temps. Et David va dire, hey, les gars, on est à côté de la plaque là. On retourne prendre ce que le diable nous a volé. Et j'ai repris et j'ai ramené dans le pays de Dieu. Et David dit, à partir de ce moment-là, c'est fini avec les Philistins. J'habiterai désormais en Juda. Et David va revenir en Juda et il ne sait pas qu'en quelques instants après, à la fin de la bataille, Dieu lui donne la royauté sur Juda. Encore fallait-il que tu reviennes vite à la maison avant qu'il soit trop tard. On va fermer les yeux ensemble. Il va falloir que tu fasses quelques tris dans tes amis. Dieu n'est pas contre que tu aies des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, puisque tu es une lumière dans ce monde, tu brilles. Mais ma fille, ne perds pas tes valeurs, parce qu'une lampe qui serait cachée, elle ne sert à rien. Du sel qui perd sa saveur, il ne sert à rien. Une femme de Dieu qui perd ses valeurs, elle est qui ? Un homme de Dieu qui, pour une promotion bidon, est prêt à sacrifier n'importe quoi, il peut y perdre sa famille. Il peut y perdre sa famille. Alors oui, une part de la responsabilité vient de l'église dans laquelle tu sors. C'est vrai. Mais tu ne pourras pas toujours te cacher en disant « j'ai été blessé, ils n'ont pas reconnu, j'ai été tellement déçu ». Tu ne pourras pas dire ça toute ta vie parce qu'il y a un moment, il faudra que tu assumes aussi tes choix présents. Dis-moi qui sont tes amis maintenant et je te dirai qui est ton futur. Il y a quelqu'un dans cette salle, cet instant-là, qui écoute ce message sur Internet, qui a un sentiment de boue. Alors je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas avec deux pater, trois Ave Maria, comme certains font, que tu vas t'en sortir. David va pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Et il va crier à Dieu. Et il va faire le tri derrière. Parce que le chapitre d'après nous dit que David va prendre tout son butin et va commencer à l'envoyer à ses amis qui étaient restés fidèles en Israël. Il va dire, voilà, je vais changer les choses. Et il a commencé à envoyer des butins, des cadeaux aux responsables de Juda, les uns après les autres. Parce que ça, c'était l'armée de Dieu. Il a commencé à valoriser les croyants auprès de lui. Et vous savez pas quoi ? Il a découvert de nouveaux amis. Si tu changes rien, tu auras les mêmes résultats qu'avant. Cette prédication va t'émouvoir un peu, te culpabiliser peut-être un peu, mais si c'est ça, j'ai perdu mon temps et toi aussi. Alors je parle à quelqu'un qui a besoin vraiment de changer ses amis. Il y a des profils Facebook qui vont devoir disparaître chez toi. Il y a des amis avec lesquels tu sors, tu vas devoir faire le tri. Est-ce que cette personne, c'est moi qui l'influence ou bien c'est elle qui m'influence ? Sois honnête et arrête de dire que tu maîtrises. Je ne vous ai pas demandé de sortir du monde. Je vous ai demandé de briller dans le monde. Mais tu dois avoir autant d'amis chrétiens que d'amis inconvertis. Crie à Dieu maintenant pour ça. Crie à Dieu. Et Dieu entend celui qui le supplie.
Je voulais l'espoir.
ensemble dans la maison de Dieu. On va terminer, on va redire Père, c'est à tes pieds. Parce que si tu cries pas en l'Éternel, si c'est pas en lui que tu trouves tes forces, tu vas les trouver ailleurs. Il y a un vide dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui peut le combler là. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Je vais donner le mérite, l'honneur à aucun homme de ce monde. Je ne suis pas là pour faire un deal avec Akish. Seigneur, aide-moi à faire le tri dans mes amis.
Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Père, Père, c'est à tes pieds que ma louange
ne pas chercher auprès des sans-dieux une acceptation, une liberté. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à régler ça là. Je veux pas vivre ma vie esclave en faisant des pactes avec des sans-dieux. Seigneur, renouvelle ma foi ce soir. J'ai besoin d'avoir une foi nouvelle dans tes projets, dans comment tu vois. Seigneur, tu nous appelles à régner, tu as des projets sur notre vie. On veut préparer notre éternité au lieu de passer tout notre temps à nous inquiéter pour notre présent. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, parce qu'on manque d'intelligence. Donne une révélation à quelqu'un en cet instant. Des projets que tu as sur son cœur, le concernant, la concernant. Je crois vraiment que c'est là la clé ce soir, alors qu'on va mettre un terme à ce temps. Mais Dieu veut te dire, si tu passes du temps avec moi, je voudrais te parler des choses que j'ai prévues pour toi. Parce que si tu ne sais pas les bonnes choses que j'ai prévues pour toi, tu risques de céder aux friandises que le diable a prévues pour toi. Alors ce soir, alors que ce temps se termine, va chercher dans la présence de Dieu ce que tu as besoin d'aller chercher auprès de lui. Amen. Waouh. Je suis tellement fier de pouvoir vivre ça avec vous. Là, je ne suis plus en train de prêcher. Mais vous savez, un jour au ciel, on va se voir. Et mon rêve, ça serait certain d'entre vous, mais évitez des bêtises en venant à l'église des fois. Alors peut-être, je sais très bien que cette prédication ne peut pas parler à tout le monde. Mais si c'est pour toi qu'elle parle, pour ta fille, pour ton gars qui est un ado, pour toi qui as 17 ans aujourd'hui, et si ça te permet de faire un tri, oh, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir pu partager ça avec toi. Moi, j'aurais voulu pouvoir l'entendre quand j'étais sur le point de faire de mauvais choix. Sois bien entouré. J'espère que ces messages vous ont parlé. On va tout synthétiser ça sur internet. Et pour ceux qui veulent, vous aurez le coffret. Mes amis, mon entourage, mon conjoint, un peu tout quoi. Vous ne serez pas touchés par tous les messages, mais j'espère que Dieu a pu vous parler depuis 4 semaines. En tout cas, je suis très très heureux d'être pasteur de cette église. Vous savez, vous allez asseoir, je vais laisser à la meilleure d'entre nous pour faire les annonces, Yohana. Si, elle était très bonne, Yohana. Yohana, elle n'accepte pas les compliments. C'est normal, elle est française et les Français n'acceptent pas les... T'es génial, Yohana. Tout comme toi.